Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et d'Oman discutent des relations bilatérales et des développements régionaux. 5 martyrs et 20 blessés dans une attaque terroriste menée par Daesh contre un bus militaire dans le désert syrien. Et le premier ministre soudanais présente sa démission. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Les ministres des Affaires étrangères d'Iran et d'Oman ont discuté de diverses questions intéressant les deux pays lors d'un appel téléphonique. Lors de l'appel téléphonique de dimanche 2 janvier, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et son homologue omanais Saïd Badr Al-Busaidi ont souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale au niveau international. Les hauts diplomates iraniens et omanais ont également appelé à la poursuite de consultations sur différentes questions d'intérêt mutuel et international. Le ministre iranien des Affaires étrangères a transmis les salutations chaleureuses du président iranien Ibrahim Raisi au sultan omanais Haitham bin Tahrir al-Said et a échangé des vues avec son homologue sur les moyens possibles de résoudre les crises régionales par le dialogue entre les pays de la région. Amir Abdollahian a exprimé l'espoir que le terrain nécessaire serait préparé pour sa visite à Mascate dès que possible. Le ministre omanais des Affaires étrangères a pour sa part salué les relations entre Téhéran et Mascate, affirmant que son pays a toujours insisté sur le fait que les crises régionales devaient être réglées par le dialogue sans épargner aucun effort pour promouvoir la paix. Lors d'une réunion avec le cheikh Khalifa bin Ali bin Issa al-Arsi, sous-secrétaire aux affaires diplomatiques du ministère omanais des Affaires étrangères à Téhéran, à la fin du mois dernier, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran était déterminé à dialoguer et à adopter des solutions politiques pour résoudre les problèmes régionaux. Amir Abdollahian a déclaré que l'amélioration et l'élargissement des relations avec les pays voisins sont la priorité de la politique étrangère de l'administration iranienne, notant que l'Iran attache une grande importance à ses liens avec Oman en tant que voisin. 5 martyrs et 20 blessés dans une attaque terroriste menée par Daesh contre un bus militaire dans le désert syrien. Une source militaire a indiqué lundi 3 janvier qu'un bus militaire avait fait le cible d'une attaque roquette menée dimanche à 7h du soir par un groupe du réseau terroriste Daesh à 50 km à l'est de la 3e station dans le désert syrien. La source a ajouté que l'attaque avait été suivie de tirs de canon 23 mm, ce qui a fait 5 militaires martyrs et 20 autres blessés. Par ailleurs, l'occupation turque et ses mercenaires de réseaux terroristes ont mené à nouveau une agression contre la localité d'Abu Hassein et les villages périphériques dans la banlieue nord de Hasak. Des sources civiles ont indiqué aux correspondants de Sana que l'occupation turque et ses mercenaires avaient visé à l'artillerie la localité d'Abu Hassein et les villages d'Al-Assadiya, Khadravi et Meshayrafa, ce qui a causé des dégâts à un certain nombre de maisons et obligé les habitants à se déplacer. Les sources ont fait savoir que les habitants continuent de quitter les villages se trouvant aux environs de la localité d'Abu Hassein, soulignant la peur des habitants du fait des nouvelles circulées sur une grande agression par les mercenaires de l'occupation turque qui se positionnent dans la banlieue occupée de Ras Al Ain. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a expliqué dimanche les bilans des opérations de l'armée yéménite et des comités populaires à Sarala en 2021. Selon la chaîne de télévision Al-Masira, l'opération des forces conjointes yéménites en 2021 a conduit à la libération de 12 000 km² du territoire yéménite, évoquant le passage de l'armée yéménite de la phase défensive à la phase offensive. En 2021, le général Sali a déclaré que les forces armées yéménites avaient repoussé plus de 223 attaques de la coalition d'agression saoudo-émiratie en 2021. Faisant référence à l'abattage de 12 drones américains Scan Eagle au Yémen, le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré que les forces yéménites avaient mené 194 opérations offensives contre les mercenaires de la coalition saoudienne. Le général Sali a noté que le nombre total d'opérations terrestres menées par les forces yéménites atteint 40 126, au cours desquelles 1527 soldats ennemis ont été tués. Soulignant que l'armée yéménite utiliserait de nouveaux missiles en 2022, il a annoncé que les combattants yéménites avaient pu liquider plus de 1 700 mercenaires de la coalition saoudienne. Le général Sali a noté que 754 mercenaires soudanais avaient été tués ou blessés l'année dernière lors de 4497 opérations de drones de l'armée yéménite. Il a poursuivi que plus de 24 000 mercenaires de la coalition saoudienne avaient été tués et blessés dans l'opération des forces yéménites, ajoutant que 2298 opérations ont été menées avec des missiles Zelzal 1. Le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré que les unités du génie avaient mené 5000 opérations contre des mercenaires et le quartier général de la coalition saoudienne. Se référant à l'abattage de 22 drones saoudiens, il a déclaré que l'unité de missiles yéménite avait mené 440 opérations, dont 340 visaient à attaquer les forces ennemies à l'intérieur du Yémen et 100 contre des positions ennemies à l'extérieur du pays. En conclusion, le général de brigade Yahya Sali a déclaré que l'armée yéménite et ses combattants alliés des comités populaires poursuivront résolument leur combat jusqu'à la libération complète de toutes les régions du Yémen de l'emprise de l'ennemi envahisseur. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé dimanche qu'il démissionnait de son poste en raison de la crise politique qui agite le pays. J'annonce ma démission du poste de Premier ministre afin de laisser ma place à une autre personne choisie parmi les fils ou les filles de ce généreux pays, a déclaré M. Hamdok dans une adresse au peuple diffusée par la télévision d'État soudanaise. Vous m'avez accordé l'honneur d'être Premier ministre dans ces circonstances délicates et pleines d'espoir et j'ai fait de mon mieux pour empêcher notre pays de sombrer dans le désastre, a-t-il rappelé. Face aux différends au sein des forces politiques et aux conflits inélistes entre toutes les composantes de la transition, et malgré ce que j'ai fait pour atteindre le consensus désiré et nécessaire pour réaliser ce que nous avons promis aux citoyens, à savoir la sécurité, la paix, la justice et la cessation des effusions de sang, cela n'a pas eu lieu, a déploré M. Hamdok. Le Premier ministre, sur le départ, a souligné l'importance d'entamer un dialogue global pour mettre fin à la crise politique dans le pays. Le mot-clé de la solution à cette impasse qui a duré plus de 6 décennies dans l'histoire du pays est de recourir à une table ronde impliquant toutes les parties de la société soudanaise et de l'État pour parvenir à une charte nationale et établir une feuille de route pour achever la transformation démocratique civile, a-t-il recommandé. On ignore pour l'instant qui succédera à M. Hamdok, étant donné qu'il ne semble pas y avoir de candidat visible, tandis que le pays traverse une crise politique après que le commandant général des forces armées soudanaises, Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré l'état d'urgence le 25 octobre 2021 et dissous le Conseil souverain ainsi que le gouvernement. Le 21 novembre, Abdel Fattah al-Burhan et Abdallah Hamdok, qui avaient été démis de ses fonctions, avaient signé une déclaration politique prévoyant la réintégration de M. Hamdok au poste de Premier ministre. Néanmoins, cet accord n'a pas réussi à calmer la rue. Les manifestations de rue ont également été alimentées par la hausse des prix des aliments, de l'énergie et des produits de première nécessité dans le pays. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a annoncé dimanche avoir formé un groupe de formateurs libyens en matière de santé mentale et de soutien psychologique. L'UNICEF a organisé une formation de formateurs en santé mentale et en soutien psychosocial, prévention et réponse à la violence, a déclaré l'agence onusienne dans un communiqué. Les 30 filles participants de l'équipe multidisciplinaire nationale du ministère de l'Éducation, des chefs du département des travailleurs sociaux du ministère, ainsi que des travailleurs sociaux de diverses écoles, ont participé à cette formation du 2 au 18 décembre 2021 à Tunis, selon la même source. L'UNICEF a également affirmé prévoir de former un autre groupe de 120 participants d'ici la fin des 3 formations prévues. La Libye est en proie à l'insécurité et au chaos depuis la chute du régime de son ancien dirigeant Muammar Kadhafi en 2011. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Ain al-Assad n'a été qu'un début. Signé par Abdel Bari Atwan, l'éditorial de Raya Al-Yaoum était consacré au 2e anniversaire de la mort à martyr de l'ancien commandant en chef de la force ROTS du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de corps d'armée Rassem Soleimani, et ses camarades de combat, dont notamment le numéro 2 des Hashd al-Shaabi d'Irak, Abu Mahdi al-Muhandes. Lorsque le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, reçoit la famille du général Soleimani à l'occasion du 2e anniversaire de son assassinat et souligne que ceux qui sont à l'origine de cet assassinat paieraient très cher leurs crimes terroristes, cela signifie que les attaques de missiles ayant visé les bases militaires américaines à l'aéroport d'Erbil ou Ain al-Assad dans la province d'Al-Anbar en Irak ne suffisent pas. Même si ces bases sont démantelées, même si toutes les forces américaines partent, une plus grande vengeance finira par tomber et cela est inévitable. L'éditorialiste Rayal Yaoum affirme que la mort en martyr du général Soleimani était certainement une grande perte pour l'Iran et pour l'axe de la résistance tout entier. Le rôle et l'influence du général Soleimani étaient bien plus importants que son statut officiel déclaré. Il était le commandant en chef de la force ROTS, mais cet homme, Haj Rasem Soleimani, qu'on avait surnommé « cher au cœur », jouait un rôle axial au Liban, en Irak, au Yémen et en Palestine, la bande de Gaza, ainsi que dans la lutte contre les complots des ennemis en Syrie. Écrit Atvan. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblera la vengeance dont parle le leadership de l'Iran, mais nous pouvons deviner qu'il pourrait s'agir, dans une première étape, d'un retrait de toutes les forces américaines d'abord d'Irak et par la suite de tout le Moyen-Orient. Peu importe ce qui résultera des pourparlers de Vienne, cela fera partie des priorités de Téhéran pour des mois à venir. D'après l'éditorialiste Rayal Yaoum, tous les peuples arabes en général et la résistance palestinienne en particulier doivent se sentir devables envers le général Rasem Soleimani. Puisque toute cette ténacité, toutes ces victoires et tous ces entraînements, la technologie de missiles et drones et l'ingénierie des tunnels utilisés par la résistance palestinienne à Gaza, tout cela a été rendu possible grâce à la vision stratégique du général Soleimani et sous sa supervision directe. Des sources de haut rang au sein de la résistance islamique dans la bande de Gaza ont affirmé que Soleimani s'y était rendu en personne, y avait passé plusieurs jours et avait rencontré des responsables de la résistance, notamment ceux des brigades Rassam, branche armée du Hamas. Atvan fait ensuite allusion aux déclarations du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, là où il parle du rôle du général Soleimani dans la consolidation de la résistance palestinienne. Dans un discours, Nasrallah a récemment révélé que Haj Rasem lui avait personnellement demandé de se rendre à Damas pour demander au président syrien Bachar al-Assad de mettre fin aux différends avec le Hamas et autoriser le transfert des missiles Hornet à la bande de Gaza. Atfan précise que le président Assad n'a pas hésité à accepter cette demande. Selon les dires même de Saïd Hassan Nasrallah, au moment où le convoi des missiles Hornet entrait dans la bande de Gaza, les chars du régime sioniste n'ont même pas osé de s'en approcher d'un seul mètre. Mais comment et par quel itinéraire le convoi de missiles arriva-t-il à la bande de Gaza? C'est une chose pour laquelle étaient au courant seulement 4 personnes. Le général Soleimani, le président Assad, le secrétaire général du Hezbollah et le commandant des brigades Rassam, précise Abdelbari Atvan. Et pour finir, le journaliste arabe tient à dire que la mort en martyr du général Rasem Soleimani était sans nul doute une énorme perte pour l'Oumma islamique et l'axe de la résistance. Mais l'Oumma islamique est toujours vivante et pourra engendrer des génies suffisamment puissants pour emboîter le pas au général martyr Soleimani.